France Inter, 8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, tollé international, réunion de crise à l'ONU, tension dans le monde arabe, à quoi joue Donald Trump? Sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël provoque la fureur de plusieurs pays musulmans, y compris d'ailleurs parmi ses alliés. Nous irons à Washington, à Jérusalem également, dans cette ville que se disputent israéliens et palestiniens. Et à 8h20, Nicolas, on ouvre le débat avec vos invités.
Aliza Bin Noun, madame l'ambassadrice d'Israël en France, Majed Bamia, qui est lui diplomate palestinien. Il représente l'État de Palestine à l'Organisation nationale, à l'ONU, pardon. Vos questions 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, attention aux arnaques à la carte bancaire. Elles ont explosé l'an dernier, plus d'un million de Français touchés. Faut-il taxer les gros transferts dans le foot français? Une proposition de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Les hommages à Johnny Hallyday, l'Élysée et la famille du chanteur réfléchissent à une cérémonie sur les Champs-Élysées après-demain. Un nouveau site internet à la SNCF. Vous pourrez désormais acheter vos billets par la voix. Et puis le dernier film de Georges Clooney, réalisateur, qui sort au cinéma. C'est une traînée de poudre partie de la Maison Blanche et dont personne ne sait où elle s'arrêtera. Donald Trump a donc craqué l'allumette hier soir au-dessus du Proche-Orient. Il confirme que les États-Unis vont bien reconnaître bientôt Jérusalem comme capitale d'Israël, en lieu et place de Tel Aviv. Coup de tonnerre dans le monde arabe, on va y revenir. Mais d'abord, pourquoi une telle décision côté américain? Les précisions à Washington de Grégory Phillips.
Donald Trump aime dire qu'il tient ses promesses. Et c'est donc ce qu'il a fait hier en désignant Jérusalem comme la capitale d'Israël et en prenant le contre-pied de presque 7 décennies de politique américaine au Proche-Orient. Avec cette décision, le président des États-Unis donne satisfaction à deux pans de son électorat, les groupes de pression pro-Israël, puissants à Washington, mais aussi et surtout les évangéliques et conservateurs pour qui la question de Jérusalem est centrale. En vérité, la promesse n'est qu'à moitié tenue, car le déménagement annoncé de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem prendra du temps, des années, a dit Trump, qui donc a signé hier, comme il doit le faire tous les 6 mois, la dérogation qui pour l'instant maintient la mission diplomatique à Tel Aviv. Trump, enfin, a-t-il pris cette décision seul? Le Washington Post croit savoir que son secrétaire d'État, Tillerson, et son secrétaire à la Défense, Mattis, étaient opposés à cette reconnaissance, préoccupés par des risques de violence dans la région. D'ailleurs, le département d'État a demandé à tous les ressortissants américains de limiter leurs déplacements en Israël et dans les territoires palestiniens. Les diplomates, eux, n'ont plus le droit de se rendre dans la vieille ville de Jérusalem, ni en Cisjordanie. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et pour comprendre, c'est justement dans cette vieille ville de Jérusalem que nous partons maintenant, dans la partie arabe de la ville, la partie est, conquise en 67 puis annexée par Israël. Les Palestiniens rêvent toujours d'en faire leur capitale et la décision américaine sonne la fin de leurs espoirs. Reportage du correspondant de France Inter sur place, Étienne Monin.
Le quartier arabe de la vieille ville est aujourd'hui un front du refus qui défend d'abord l'enjeu national, explique Jamil, commerçant placé près de la porte de Damas.
On vit dans Jérusalem, nous les Palestiniens, et on a le droit d'avoir notre capitale. Jérusalem est une ville occupée, ce n'est pas la capitale d'Israël.
Mais très vite, on sent aussi les implications religieuses. Mourad considère Jérusalem comme une ville universelle. Attribuer une souveraineté, c'est briser le fragile édifice de cohabitation.
Jérusalem, c'est une ville pour la culture, la civilisation. Par exemple, je suis palestinien, moi je ne dis pas que Jérusalem est la capitale de la Palestine ou d'Israël, c'est la capitale de tous ceux qui viennent de partout dans le monde pour y prier.
La souveraineté israélienne rallume aussi les inquiétudes autour de la mosquée Al-Aqsa. Elle est considérée comme le patrimoine de tous les musulmans, elle est le dernier ciment pour les Palestiniens et une ligne rouge infranchissable pour Hawa, attachée à la défense du site religieux.
C'est l'endroit le plus important pour les Palestiniens, les musulmans. Les Arabes. C'est vraiment une ligne rouge. Ça n'est pas pour l'Amérique ou les Israéliens.
Mais derrière le refus, on sent aussi la résignation. Les Palestiniens de la vieille ville se considèrent un peu comme les spectateurs de leur propre histoire. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Du côté des réactions, c'est très simple. Seul le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou applaudit. Il parle d'un jour historique. Mais dans toute la région, c'est un concert de critiques, de réprobation, de menaces même. La Jordanie dénonce une violation du droit international. Injustifié, irresponsable, ajoute l'Arabie Saoudite, pourtant alliée des États-Unis. Pour l'Iran, c'est une nouvelle intifada qui est inévitable. Quant aux islamistes du Hamas, ils estiment que cette annonce ouvre les portes de l'enfer aux Américains. Réprobation également en Europe, Londres, Paris et Berlin sur la même ligne. Écoutez ce qu'en dit Emmanuel Macron.
C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le statut de Jérusalem est une question de sécurité internationale qui concerne toute la communauté internationale. Et je veux l'affirmer clairement devant vous, le statut de Jérusalem devra être déterminé par les Israéliens et les Palestiniens dans le cadre de négociations sous l'égide des Nations Unies. Pour l'heure, je lance un appel au calme. Nous devons éviter à tout prix les violences et privilégier le dialogue. La France est prête, avec ses partenaires, à prendre toutes les initiatives utiles en ce sens.
Emmanuel Macron au micro de Bertrand Galichet. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU effectivement est convoquée pour demain et l'onde de choc va bien au-delà. Le Premier ministre de la Malaisie, furieux de cette décision, appelle les musulmans du monde entier à s'opposer à la décision américaine. Bernard Guetta y revient dans Géopolitique juste après ce journal. Pas question de lâcher le manche ni d'ailleurs de passer la main. Vladimir Poutine sera bien candidat à sa succession en mars prochain lors de l'élection présidentielle en Russie. Il l'a annoncé hier. Tous les sondages le donnent déjà élu dès le premier tour pour un quatrième mandat, lui qui dirige le pays depuis 17 ans. Enfin, toujours à l'étranger, les flammes aux portes de Los Angeles, 200 000 personnes évacuées, alors que plusieurs incendies font rage au nord de la deuxième ville américaine. L'air est irrespirable par endroits. Certains quartiers recouverts de cendres, 30 000 hectares sont déjà partis en fumée.
Il est 8h06, moins de cambriolages, mais des fraudes à la carte bancaire qui explosent.
C'est le dernier bilan de l'insécurité en France, bilan contrasté et établi par l'Observatoire National de la Délinquance, qui a interrogé 16 000 personnes. Première indication, le nombre de vols avec violence est en forte baisse, tout comme celui des cambriolages pour la deuxième année de suite. En revanche, les arnaques à la carte bancaire sont en hausse. 1 200 000 Français en ont été victimes l'an dernier. C'est presque un phénomène de mode pour Christophe Soulez, le directeur de cet observatoire.
On voit là l'importance aujourd'hui de la cybercriminalité, de la criminalité numérique, qui prend le pas justement sur les activités criminelles traditionnelles, je dirais. La criminalité se déplace, ce sont des cycles. Lorsque certains biens, je dirais, sont présentent plus d'intérêt pour les criminels, bah, ils se tournent vers d'autres types d'activités. On peut penser par exemple aussi que la protection très importante des téléphones portables depuis 5-6 ans a joué sur la baisse des vols avec violence. Aujourd'hui, c'est difficile de voler un téléphone portable, on peut le bloquer de lointain, et les circuits d'écoulement sont difficiles. Donc on va effectivement, on préfère peut-être commettre des infractions derrière son ordinateur, et puis on a moins de risques d'être pris aussi.
Christophe Soulez, qui était ce matin l'invité du 5-7 d'Hélène Roussel, interview à retrouver dans son intégralité sur franceinter.fr. Avec les principaux chiffres de cette enquête. Il était moribond ces dernières années, il retrouve des couleurs, c'est le TGV, sa fréquentation est repartie nettement à la hausse cette année, 8 millions de passagers supplémentaires, notamment grâce aux nouvelles lignes à grande vitesse vers Bordeaux et la Bretagne, mais aussi aux offres low cost qui ont permis de mieux remplir les trains. Et pour gonfler les ventes, la SNCF mise aussi sur son tout nouveau site internet, un nouveau nom et de nouveaux services pour appâter les clients. Maxime Deps.
N'y voyez aucun lien avec la pagaille de ce week-end à Montparnasse. Cette mue numérique était prévue de longue date, même si ce changement d'identité tombe à point nommé dans l'idée de recentrer le débat sur le client, ou plutôt sur les 15 millions de voyageurs supplémentaires que la SNCF espère séduire dans les 3 ans en leur facilitant la tâche. Pour Rachel Picard de Feu Voyage SNCF, ça passe par un site plus intuitif avec des nouveautés comme cette alerte petit prix qui vous est désormais proposée.
C'est tout simple, vous avez envie de partir à Montpellier la semaine prochaine, votre prix c'est 65 euros, vous nous indiquez ça et nous dès qu'on arrive à trouver un trajet qui correspond à ce tarif-là, eh bien on vous envoie une petite notification, on vous alerte et vous pouvez réserver en quelques clics votre voyage.
Autre nouveauté, le site qu'il faut donc appeler Oui SNCF propose maintenant un service de relation client H24, 7 jours sur 7, afin d'organiser au mieux votre voyage, des conseillers vous guident au téléphone ou par chat, vous aurez même la possibilité désormais d'effectuer votre réservation avec votre seule voix. Aujourd'hui, 40 billets sont vendus sur le site de la SNCF chaque seconde. Demain, ce sera plus. C'est le pari que veut faire la compagnie, obligée de se réinventer face aux deux concurrents de plus en plus coriaces que sont l'avion et le covoiturage.
Inter 8h09, y aura-t-il une taxe Neymar dans le foot français ?
Prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est presque du Robin des Bois dans le texte et c'est ce que veut faire un député centriste dont la proposition de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Il veut taxer à 5% les plus gros transferts et reverser l'argent au football amateur. Dans ce combat d'ailleurs, il n'est pas seul puisque les députés de la France Insoumise ont décidé de le rejoindre et de s'afficher à ses côtés et balle au pied hier soir devant l'Assemblée nationale. Reportage Laurence Perron.
Allez, on est à 9.
Maillot de foot sur la chemise, Michel Zumkeller, député UDI, jongle devant l'Assemblée nationale avec les députés de la France insoumise.
Michel ne le sait pas, mais nous on se propose de remettre le trophée Zumkeller 2017.
C'est ça, c'est gentil.
Et comme deuxième, comme médaille d'argent, c'est l'axe UDI.
À ses côtés, François Ruffin, député insoumis donc, qui co-signe sa proposition de taxer à 5% les gros transferts.
Moi j'ai vu arriver cette proposition de loi et je me suis dit, bon, ça vient de l'UDI, mais on croirait un truc insoumis. Là j'ai le t-shirt du RIF, qui est un club d'Amiens-Nord, et c'est une bande de quadragénaires qui payent eux-mêmes les licences des gamins, parce que comme ils sont dans un quartier populaire, ils savent que les familles n'auraient pas forcément les moyens de se les payer. Et donc c'est donner un signe d'encouragement sonnant et trébuchant qui viennent d'en haut, alors que généralement ils ne voient rien venir.
À quelques mètres, des salariés de General Electric venus de Grenoble pour plaider la cause de leurs 345 emplois menacés.
Moi, je pense que le sujet, quelque part, est le même. Comment on fait perdre l'emprise de la finance, à la fois sur un sport populaire comme le football et sur une industrie comme General Electric. L'emploi, c'est l'emploi d'élite seulement ou c'est de l'emploi pour tous?
Est-ce qu'on fait une politique pour le bien commun ou est-ce qu'on fait une politique pour les riches?
Donc bon, écoutez, moi, je vous remets collectivement le Bizum Killer 2017. Aujourd'hui, c'est on vous met le feu, on allume le feu.
On appelle cela la convergence des luttes ou une bonne science de la communication politique.
Un reportage Laurence Perron. C'est là que Marine Le Pen avait ses habitudes dans un village qui vote pour elle à 90%. Mais le maire de Brachet, en Haute-Marne, où la présidente du FN fait sa rentrée politique chaque année depuis 2012, annonce qu'il rend sa carte du parti. Déçu, dit-il, par le discours de Marine Le Pen entre les deux tours de la présidentielle. L'affront est double puisqu'il annonce aussi qu'il rejoint le mouvement de Florian Philippot, les Patriotes.
Verra-t-on son cercueil sur les Champs-Élysées?
La décision devrait être prise aujourd'hui, mais l'Élysée réfléchit bien à l'organisation d'un hommage à Johnny Hallyday. S'agira-t-il d'obsèques nationales, comme ce fut le cas une seule fois pour une chanteuse? C'était Joséphine Baker en 1975. D'après plusieurs médias, la célébration pourrait se tenir après-demain à Paris. Le cortège funéraire descendrait les Champs-Élysées en présence du couple Macron, avant une cérémonie dans l'église de la Madeleine. En attendant, les hommages se poursuivent. Standing ovation hier à l'Assemblée. Bientôt une rue Johnny Hallyday à Nice et plusieurs rassemblements hier soir. Sans oublier les mots d'un autre grand du rock dans un tout autre genre. C'est Bono, le leader de U2. C'était hier soir en direct sur France Inter. Hommage en anglais et un petit peu en français dans le texte. Tendez bien l'oreille.
Que je t'aime, the one for me. I know there's many great songs. I love that.
Je l'aime celle-là.
Production on that and je te promets also. I like those very classic.
J'aime beaucoup ces morceaux très classiques.
Yeah.
Have you ever seen him perform somewhere?
Est-ce que tu l'as déjà vu sur scène?
Yeah, a few times.
Ouais, plusieurs fois.
I don't know, whatever that is.
Je ne sais pas ce qu'il avait. Il avait quelque chose.
You know, the rock and roll swagger.
Il avait cette attitude rock.
That's what it was.
C'était ça qu'il avait.
He fully occupied his persona.
Il habitait intégralement son personnage.
Voilà, Bono interrogé par Didier Varro et Mishka Assayas lors de la soirée hommage hier soir sur Inter. Certains fans avaient tellement Johnny dans la peau qu'ils se l'étaient fait tatouer. À Caen, Didier Charpin a poussé la porte d'un tatoueur qui en a vu passer.
Jackie est installé dans son petit local depuis 32 ans et il en a dessiné des Johnny.
En règle générale, c'est ou un portrait en pied, c'est-à-dire qu'on le voit en entier, quoi, en costume. Oui, oui, complètement, oui. Ou alors simplement le visage, mais de toute façon, les trois quarts du temps, c'est le visage. En plus, dans l'aspect, je dirais, entre guillemets, artistique, vous avez le Johnny actuel avec le petit bouc, la petite barbe, vous avez le Johnny avec la boucle d'oreille, vous avez le Johnny avec les cheveux très longs, vous avez le Johnny des années 60, donc là, qui est très, très rock'n'roll, hein, avec la petite banane, et tout se fait, en fait.
Lui-même fan de rock, mais pas forcément de l'ex-idole des jeunes, Jackie constate que ce phénomène Johnny ne s'est jamais essoufflé. Au contraire, le dernier tatouage est très récent.
Je l'ai fait la semaine dernière, mais c'était aussi en hommage, sachant qu'il était un petit peu dans le malheur, je veux dire la personne qui s'est faite ça, hein. Et il l'a fait en hommage à Johnny.
Et la disparition du chanteur devrait lui amener beaucoup d'autres fans en deuil. Et
je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va avoir des gens qui vont venir, hommes comme femmes, hein. Il n'y a pas de distinction, hein, pour se faire un tatouage de Johnny.
Selon Jackie, Johnny est le seul chanteur français du niveau de Jim Morrison, Elvis ou Bob Marley, des artistes toujours tatoués, vénérés, à quelque part immortels pour leurs fans.
Hommage national ou pas, telle est donc la question. Mais pour l'autre grand disparu de la semaine, Jean d'Ormesson s'est tranché. Il y aura bien une cérémonie d'hommage national demain aux Invalides à Paris et elle sera présidée par Emmanuel Macron. un joli coup de projecteur pour le Louvre d'Abu Dhabi qui vient d'ouvrir ses portes. Ses visiteurs découvriront bientôt le tableau le plus cher du monde, le Salvator Mundi, signé Léonard de Vinci, adjugé le mois dernier pour 450 millions de dollars. On ne connaissait pas l'acquéreur, il s'agirait d'un prince saoudien. C'est lui qui aurait accepté de prêter la toile.
Et si on s'en faisait une de toile, Marc, justement?
Si je vous dis que c'est George Clooney qui tient la caméra avec Matt Damon et Julianne Moore en tête d'affiche et que le film est inspiré d'un scénario des frères Cohen, ça s'appelle Bienvenue à Suburbicon, charmant quartier pavillonnaire dans l'Amérique des années 50, charmant. Enfin, pas tant que ça, car l'arrivée d'une famille noire va tout changer, va bêtant.
Le cinéma, les séries télévisées les ont déjà dépeintes, le plus souvent pour les railler. Les banlieues proprettes, avec leurs maisons alignées, leur papa à lunettes et leur maman à tablier. L'American Way of Life dans toute sa splendeur, c'est ce que promettait dans les années 50 le hameau de Suburbicon. Dans toute son horreur, répond George Clooney, qui fait cohabiter dans le même film un sujet sérieux, la dénonciation du racisme et une farce criminelle. Tout allait bien à Suburbicon jusqu'à ce que la première famille noire emménage. Pour les habitants, c'est un outrage. La maison voisine est occupée par un couple, Matt Damon et Julianne Moore, particulièrement amoral derrière son apparence rangée. Cette histoire-là permet une surenchère dans la vilainie, toujours payante à l'écran. Du coup, c'est dommage, cela fait passer au second plan la flambée raciste des gens réputés bien. Certes, George Clooney claudique entre ces sujets, cela n'empêche, le film est original et réjouissant. Clooney parvient à créer tout un univers et sa charge contre les hypocrites et les intolérants en costume-cravate n'a rien de démodé.
Suburbicon de George Clooney dans les salles cette semaine. Enfin, si vous habitez Lyon ou si vous y passez, c'est le coup d'envoi ce soir de la fête des Lumières, des scénographies lumineuses dans toute la ville. Les rues, les ponts, des monuments de la Croix-Rousse à la place Bellecour qui sera transformée en jardin coloré. Ça commence ce soir et c'est jusqu'à dimanche à Lyon.